Vieille Branche, une production Nouvelles Écoutes en partenariat avec Radio Nova.
Ça, c'est ce qui détruit la planète, vraiment. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet politique qui réponde à un rêve, à une idée pour survivre dans le futur. Aucun. Ça n'existe nulle part. C'est ça rapporte ou ça ne rapporte pas.
Bonjour, c'est Marie Misset et Marine Roux pour l'interview de ce matin.
Oui, alors vous allez pousser la porte vitrée et ensuite tout de suite après la porte à droite au rez-de-chaussée.
Très bien.
Allez. Pour cet épisode de Vieille Branche, on est allé dans le génial atelier appartement de Gilles Clément, 77 ans. Gilles Clément, il est jardinier, il est écrivain, il est artiste et son atelier, c'est un endroit que j'ai adoré. D'abord, on a cru rentrer dans un débarras. En fait, c'était son entrée, enfin son couloir d'entrée. Au mur, il y avait des étagères remplies de morceaux de bois, de pierres. Puis on est monté par des petits escaliers. Et là, il y avait des cadres remplis de papillons. On est tombé sur un rondin de bois à l'entrée de la pièce et posé dessus une peluche taupe qui m'a énormément plu. Des affaires qui sèchent, une hauteur incroyable sous plafond dans cet appartement qu'il a retapé lui-même avec de l'aide, comme il a construit sa propre maison dans la Creuse. Et puis sur le mur latéral à nous, pendant l'interview, la photo d'une paire de chaussures couverte d'oursins. Il m'a dit après que c'était l'œuvre d'un artiste qu'il aime beaucoup, Thierry Fontaine. La photo s'appelle « La longue traversée ». Tout ça pour vous dire que je me suis sentie bien tout de suite chez Gilles Clément, entourée de choses belles et bizarres qui m'ont plu immédiatement.
Ça, c'est vrai. Il y a des choses vraies. Ça aussi, c'est le plus petit petit marc. Oui, il vient de mon jardin. C'est très, très...
Un gros dent, du coup.
Oui. Un peu raté.
C'est un potimarron raté, mais il n'y a pas de potimarron raté.
Non, c'est vrai.
C'est pas... C'est... Ou alors, j'ai rien compris, là. Il m'a montré votre interview.
Vieille branche, chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
C'est vraiment bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout, de la
je
vie.
Suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Récolter ces paroles aujourd'hui, c'est aussi précieux qu'absolument nécessaire. Parce que depuis 4 ou 5 ans, chaque année qui passe rend cette citation d'Antoine Gramsci plus limpide, parfaitement adaptée à la drôle d'époque qu'on vit. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et pour les terrasser, ces monstres, ou au moins les tenir à distance, voire même les apprivoiser, écouter les mots de nos vieilles branches, qui forment ensemble notre mémoire collective, c'est un véritable bouclier.
Oh, vieille branche.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance de leur vie, de l'amour, de la mort, de ce monde qu'ils ont connu et qui n'est presque plus, de leurs souvenirs d'enfants, de leur adolescence, de leurs amis, de leur passion pour l'art, la musique, les mots, la politique, du regard qu'ils portent sur l'époque, sur les jeunes, sur les combats qui se préparent. Parce que la beauté de l'âge, c'est qu'il libère la parole, et c'est ça que vous entendez dans Vieille Branche. Je suis Marie Misset, et aujourd'hui, je suis dans l'atelier maison de Gilles Clément. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour.
Merci de prendre le temps pour nous de nous recevoir dans ce bel atelier qui est, si j'ai bien compris, un ancien dépôt à meubles.
Oui, c'est un ancien dépôt à meubles. C'était une plateforme, il n'y avait aucune cloison, il y avait juste l'électricité mais pas d'eau, pas de chauffage. Voilà, j'ai dû en faire un lieu, disons, un peu habitable.
Alors vous êtes avant tout jardinier, Gilles Clément. Enfin, vous avez commencé paysagiste avant de vous rendre compte que vous aimiez par-dessus tout travailler le vivant, le changeant. Vous êtes aussi écrivain, mais il me semble que tout est lié parce que certains de vos jardins ou de vos idées de jardin sont sans doute nés sur le papier alors que vous cherchiez vos mots pour définir vos rêves. Et puis la société, vous, je ne sais pas, considère que vous êtes un artiste puisque France Culture vous a convié à une masterclass qu'elle réserve aux artistes. Et le Collège de France vous a invité à occuper sa chaire annuelle de création artistique en 2011. Ceux qui ne vous connaissent pas, vous connaissent peut-être vos jardins. Le jardin en mouvement du parc André Citroën à Paris, dont vous êtes le co-concepteur et co-créateur. Je sais bien que c'est un sujet sensible. Donc vous étiez plusieurs sur le sujet. Le jardin du château de Blois et cette merveille, enfin... Moi, je dis merveille parce que je le connais, ce jardin du domaine de Rayol. Votre façon de travailler le jardin, de le conceptualiser... Et forcément, je pense, politique. On ne voit pas comment travailler avec le vivant ne pourrait pas l'être aujourd'hui. Mais avant de revenir sur les trois concepts que vous avez élaborés au fur et à mesure de votre travail, ceux de jardin en mouvement, de jardin planétaire et de tiers-jardin, comment est-ce que ça s'est passé 2020 pour vous, Gilles Clément? Comment ça s'est passé cette année? Comment vous l'avez vécu?
2020 était au départ, avec le confinement, c'est pas le départ de 2020, mais enfin, c'est tout de même au printemps, vers le mois de mars, une espèce de continuité logique du temps tel que je le pratique, où finalement, j'étais dans la Creuse, hein. Donc dans mon jardin, je ne fais que une fois par semaine les courses. Voilà, je n'ai pas du tout d'autre activité que celle du jardin et du travail dans l'atelier qui est aussi dans cette maison, j'ai un lieu pour travailler. Mais la seule différence avec la façon dont je travaille habituellement, c'est que j'étais tout seul. Là, vraiment, y compris ma fille qui d'habitude vient souvent, il y avait des difficultés de communication parce que le débit Internet est faible. Et les graphistes, elle a besoin d'envoyer des images en haute définition tout le temps. Et donc même des gens comme ça qui sont voilà, dans ma famille et ne venaient pas. Donc là ça a été la chose difficile. D'être seul, oui, c'est le soir. Enfin, grâce à ça, j'ai découvert les goguettes, mais bon.
Les goguettes ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
Les goguettes, c'est un groupe. Ils disent que c'est un trio à quatre. Donc voilà, ça commence comme ça. Avec une fille au piano et trois mecs qui chantent sur des airs connus, en changeant les paroles. Or, ils actualisent, on est dans la politique, justement. Mmh. Et c'est extrêmement bien fait. C'est qu'ils sont à la fois des acteurs, des compositeurs, des scénographes, mais ils sont très inventifs et avec une qualité, vraiment. Mais c'est un hasard, hein. Je suis tombé là-dessus parce que le soir, on s'ennuie. J'arrivais quand même à capter Internet.
Un bribe d'Internet, oui. C'était le bénéfice. Sur les goguettes.
Cela dit, bon, j'ai découvert... bon, alors, les goguettes, je vous les conseille. Vous regarderez. Et ils viennent d'en faire un nouveau, là, sur les gendarmes. Enfin, bon, je vous laisse
découvrir.
Ouais. Et j'ai trouvé que avec les masques, on allait vers une découverte du langage par les regards. C'est quelque chose que on n'avait pas beaucoup, parce qu'on voit d'habitude le visage dans son entier, dans toutes ses expressions, et il y a beaucoup chez nous. Et chez les Italiens, enfin chez les Latins, comme ça, une expression du visage, parfois aussi des mains, du corps. Mais enfin, le regard, il a beaucoup d'importance, mais là, il en a plus que jamais.
Bah on sourit, enfin on voit tout maintenant.
On voit tout,
le
oui.
Sourire.
Voilà. Mais même dans la rue, quand on croise les gens, on voit plus de choses qu'on ne voyait auparavant, parce que simplement, on focalise sur le regard. Bon. À part ça...
Après ça, c'est pas terrible.
Voilà.
c'est déjà ça. Et ça veut aussi dire qu'on est obligé de se regarder dans les yeux.
Oui.
Peut-être qu'on était moins obligé.
Oui,
de
bien sûr, c'est ça. Oui.
C'est la tradition dans cette émission de revenir aux sources. Quels sont vos premiers souvenirs, Gilles Clément ?
Mes premiers souvenirs ?
Oui, de quoi peut-être des bris, peut-être même ça peut être juste une image, une odeur.
Ah, les tout premiers souvenirs, ceux que j'ai eus, je crois que j'avais 2 ans. Sont des images de l'intérieur d'une maison que nous habitions à Argenton-sur-Creuse. Je crois que mes parents sont partis de là avec nous. J'avais 2 ans aussi, donc c'était limite, voilà. Et je me souviens d'une pièce où ils avaient leur lit, et d'une autre où il y avait la cheminée, et d'un escalier. C'est tout, hein.
C'est tout.
Ouais, ouais. Mais c'était à cause des cadeaux de Noël. Cause d'un... Il y avait des cadeaux.
Ouais,
voilà.
C'est flou.
C'est tout. C'est vraiment l'image, je pense, la plus ancienne.
Vous aviez une passion insecte, quand même, dès 6 ans ?
Alors là, c'est arrivé plus tard, quand j'ai commencé à, disons, je ne sais pas, regarder ce que c'est qu'un jardin, puisque j'avais chez mes parents, là où nous sommes allés, après ces 2 ans, là j'avais 2 ans quand nous sommes allés dans la maison qui est de mes parents au bord de la Creuse, ensuite est devenue celle de mon frère et aujourd'hui elle n'est plus dans notre famille, elle vient d'être vendue. Mais à des gens super, hein. En plus c'est des...
Oui, c'est pas une douleur.
Non, c'est pas une douleur parce que c'est des voisins sympathiques. Bon, parce que moi je suis pas loin de là. Et donc, là, j'ai commencé à regarder, oui, ce qui me paraissait le plus étrange. Et c'était en particulier la question même de la métamorphose à travers les... On m'a un peu expliqué, mais enfin très peu, mais mes parents n'étaient pas du tout...
Les chenilles.
Oui, ils n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Mais enfin, ils savaient qu'une chenille donnait un papillon. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais enfin, ils savaient quand même. Et là, ça m'a complètement stupéfait quand j'ai commencé à élever des chenilles, enfin, m'en occuper, les mettre dans un garde-manger... dehors, donc ils étaient enfermés mais en même temps libres, et je leur apportais la nourriture et ça s'est transformé en cocon pour donner un papillon. Mais comment ça peut se faire, quoi ?
C'est vrai qu'on le prend pour acquis, comme ça, adulte, oui, une chenille, ça se transforme en papillon, mais on imagine avec les yeux d'un enfant, c'est complètement extraordinaire.
C'est magique, c'est fantastique.
D'ailleurs, une des pistes qui a guidé votre vie, vous le dites, c'est l'émerveillement. C'est presque de la philo. Moi, ce que j'ai retenu de mon premier cours de philo de ma vie, c'est l'importance de l'étonnement, ce qui revient un petit
Exactement,
peu au même.
Exactement, c'est la même chose. Et c'est ce que le jardinier a tous les jours. Vous voyez, là, on est aujourd'hui avec cette crise de la Covid dans une obligation de vivre le présent. Mais le jardinier fait ça tout le temps. On ne sait pas comment va être le futur, là. On n'a aucune espèce d'idée. Est-ce qu'on va nous reconfiner ? Est-ce qu'on va ci ? Est-ce qu'on va ça ? Mais enfin, bon, le jardin, on ne sait pas. On ne peut pas faire une programmation avec une vision technocratique et un programme à long terme, ce qu'on appelle un plan de gestion complètement débile, ça n'a rien à voir. On ne peut pas utiliser ça pour le jardin. Il y a tous les jours un truc qui arrive qu'on n'avait pas prévu, tout le temps.
Mais on sème le futur, quand même, dans le jardin.
Bien sûr. Bien sûr,
on l'envisage toujours... quelque part.
Bien sûr, c'est ce que j'appelle un territoire mental d'espérance. On est dans le futur et pas dans le passé. On n'est pas dans la nostalgie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas surpris. On ne sait pas ce qu'on va... On participe à quelque chose qui est toujours une co-signature.
Une co-création avec la
co-création,
nature.
Co-création, oui.
Après ces quelques premières années dans la Creuse, vous êtes parti vivre à Oran. Et on en parlait un petit peu rapidement hors antenne avant de commencer l'interview. Vous y étiez de vos 7 à vos 14 ans, ce qui laisse des sacrés souvenirs. Et je vous demandais comment vous aviez vécu justement le début de ce qu'on appelait les événements, qui n'étaient pas une guerre à l'époque.
Ah oui, oui. Mais j'ai vécu ça avec surprise, évidemment. Alors j'écoutais le point de vue de mes parents et leurs amis, etc., qui étaient plutôt dans le versant de l'Algérie française, puisqu'il y avait même eu d'ailleurs à une époque un discours de Gaulle qui disait la France de Dunkerque à Tamanrasset. C'est pas, on ne le recite plus jamais, ça. Non, on n'en parle plus. Ça avait été quand même, c'était une chose acquise. Donc la guerre, là, qui commençait, on n'y comprenait pas grand-chose. Mais moi, ce que je ne comprenais pas du tout, c'était la façon dont était regardé le monde arabe par les Français, les Francaouis, comme nous étions nous, c'est-à-dire des gens qui arrivent et qui repartent. Nous n'étions pas pieds noirs du tout.
Oui, c'était pas votre pays.
Non. Mais et qui était, disons, qu'une mise à distance et une incompréhension complète. Moi, j'allais à pied à l'école, presque un kilomètre, pendant tout ce parcours, je me sentais protégé par les gens qui étaient là, qui habitaient là, en traversant les doigts. Enfin, c'était des Arabes, quoi. C'est pas, et je ne comprenais pas ce qu'on disait sur eux.
Vous ne compreniez pas. À tel point que vous êtes devenu muet, ce que vous disiez, ou
oui,
presque, vous avez arrêté de parler.
Voilà. J'ai fini par me dire, ce que je vois, ça n'est, c'est parce que je suis dans le constat, moi, dans ma façon de
dans
vivre.
Dans votre vie, oui.
Ouais. Ce que je vois n'est pas ce que l'on me dit, et donc je ne peux pas continuer à croire ce que les adultes me disent, et j'ai perdu la confiance dans ce langage qui était celui des parents, quoi.
Dans les mots, vous avez perdu la confiance.
Donc...
Dissonance impossible à réconcilier, en tout cas pour un cerveau jeune, parce que vous aviez entre 12 et 14 ans.
Oui, mais je n'avais pas les arguments pour entrer en discussion, et surtout, si j'étais entré en discussion, on ne m'aurait pas écouté. T'es trop jeune, les enfants, ils obéissent. Et bien, j'ai pas voulu obéir, mais je suis devenu muet. Voilà.
Ça les a un peu inquiétés, quand même.
Oui, c'est ma mère, ça l'a inquiété, et elle m'a dit, pourquoi tu ne parles pas ? Je ne pouvais pas lui dire ça, je ne pouvais pas lui expliquer. Je ne vais pas lui dire, je ne parle pas parce que je ne vous comprends pas. C'est difficile.
Ah ouais, peut-être qu'elle aurait compris.
Enfin, cela dit, je me suis beaucoup lié avec elle par la suite. Et même si j'ai eu des ruptures avec mon père, on s'est retrouvés à la fin de sa vie. Enfin, ce n'est pas non plus totalement... Il y a des possibilités de retrouver des liens. Mais dans cette période-là, c'est comme ça que ça s'est passé.
Hop, terminé les mots.
Ben oui.
Votre parcours scolaire, il devrait faire réfléchir à l'éducation nationale, puisque je crois qu'à partir du moment où vous aviez su où vous alliez, c'est-à-dire être paysagiste, vous avez réussi. C'est-à-dire qu'avant, vous galériez un petit peu à l'école. Vous étiez mauvais, voilà. Et tout d'un coup, vous avez eu un horizon qui vous a permis de comprendre, là encore, vous avez besoin de comprendre peut-être, vous, dans votre vie, de comprendre ce que vous étiez en train de faire.
Comment peut-on se diriger dans une tâche, une direction, quelle qu'elle soit, de vie, si on ne sait pas pourquoi on fait ça? Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Par contre, je comprends la souffrance de ceux à qui on impose ce genre de truc. C'est impossible, je ne comprends pas.
Paysagiste, ça parlait vraiment à un ado de 15 ans, à l'époque. On disait, vous parlez paysagiste, je disais, ah voilà, je sais, c'est la vocation.
Non, pas du tout, ça ne parlait pas beaucoup, mais ce qui parlait, c'était la prof de Sciences Nat à l'époque, qui m'avait dit, il y a un métier qui existe et qui pourrait être bien pour vous, et qui s'appelle paysagiste. Et parce qu'elle avait vu que moi j'étais bon dans les sciences nat, c'était la seule discipline à laquelle j'avais des notes un peu au-dessus de 10. et j'étais même le meilleur de la classe là-dedans.
Dites-le.
Mais elle m'a sauvé la vie. Parce qu'elle m'a dit, bon, alors par contre, c'était un programme dur, il fallait être ingénieur.
C'est ça.
Il fallait passer par les écoles d'ingénieurs, agro-agri ou horti surtout, puisque c'était là que se trouvait l'antenne vers le paysage.
Elles vous ont été utiles par la suite, ces études? Ça a été...
Oui, ça m'a été très utile dans la phase donc, de 3 ans et demi d'ingénieur horticole sur la connaissance du monde vivant. Parce qu'il y avait là des enseignants remarquables en botanique, en entomologie, en ornithologie, enfin c'était complet, mais en génétique avant tout quoi. Après, tout n'était pas parfait. Une fois qu'on connaît, qu'on a appris, qu'on comprend comment tout ça fonctionne à peu près, on nous dit voilà comment il faut s'en occuper pour obtenir
rendement.
Pour être performant. Bon, ça c'était la vision qu'on a toujours de l'exploitation horticole et agricole aujourd'hui, enfin de cette époque-là qui a commencé, on apprenait les F1, toutes les manipulations, la stérilisation, les semences qu'on ne ressème pas, enfin tout ça. Et là, ça commençait à se gâter, c'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi il fallait tuer.
Mais c'est ça, vous le dites, c'est une phrase assez forte, on m'a appris à tuer.
Ben oui. On nous a appris à tuer.
Mais avant ça, donc, vous parlez d'un alphabet quand vous dites on vous a appris ce que c'était le vivant avant de vous apprendre à le tuer. Vous dites ça a un peu disparu dans ces études-là, on l'apprend moins, peut-être un peu plus aujourd'hui.
Mais c'est monstrueux, c'est grave. Je ne comprends pas qu'on ait abandonné totalement l'accès à la connaissance du vivant. Aujourd'hui, on rentre encore sous cette illusion de la maîtrise qui est on n'a pas besoin de connaître ça puisque de toute façon, on va le tuer.
De toute façon, on domine.
On garde une plante, un animal, on tue tous les autres et on booste ce que l'on garde avec la chimie, les machines et tout le reste. Donc on n'a pas besoin à l'écosystème, on s'en fout quoi.
On n'a pas besoin de connaître.
Et c'est une espèce de... Bon, illusion de la maîtrise, j'appelle ça, mais c'est ce niveau d'ignorance acquis, il est énorme, nous met en grand danger, parce qu'on se prive de tous les auxiliaires du jardin, mais aussi de la vie globale. Et là, on se tue. C'est un suicide.
En vous écoutant, ces 5 dernières minutes, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce que vous venez de dire de l'Algérie française, où vous dites il y avait de la domination, et donc il n'y avait pas besoin de connaître, et je ne comprenais rien.
Mais c'est exactement la même chose. Et sur la planète, vous voyez bien comment les humains s'entretuent, là, avec les mêmes...
Avec cette idée, donc, on n'a pas besoin de connaître ce qu'on domine, ce qu'on va tuer.
Bien sûr.
Dans ces études de gestion de la nature, est-ce que ça vous êtes venu tôt à la conclusion que ce mode de relation, ça vous plaisait pas, ou est-ce que ça a pris un peu son temps?
Ça m'est venu petit à petit dans la pratique, parce que bon, j'avais déjà une espèce de malaise, disons, léger dans ces études. Quand pour gagner un peu ma vie, alors ça c'était au black, n'est-ce pas? En tant qu'étudiant, on travaillait pour faire des jardins pour les particuliers. Mais une fois que je me suis installé à la sortie de l'école, au retour de du Nicaragua où j'ai fait la coopération, j'ai heureusement pas fait le service militaire, et j'ai commencé à m'installer professionnellement, j'ai repris des clients que je connaissais, là, officiellement. Et cette clientèle est devenue de plus en plus, disons, une clientèle aisée, parce que par le bouche à oreille, on finit par... Bon, voilà, si on est apprécié, on finit par... Bon. Et plus j'allais vers des gens fortunés, disons, moins j'étais payé. Ça, c'était la logique de... On est invité à dormir, à un repas, oui, etc. Ça, oui. J'ai été payé en chien, une fois, j'ai eu un chien. Mais j'ai pas...
Mais alors, une fois que vous étiez installé, donc là vous travailliez plus au black, comme
oui,
vous dites.
Oui, là j'avais même une camionnette. Oui, c'était un chouette chien. Heureusement, c'était un joli labrador noir.
Il vous a suivi longtemps?
Très longtemps, oui.
Très bien.
Mais c'était une vie bizarre, et je voyais bien que je ne pouvais pas tenter des expériences auprès d'eux en les prenant pour cobayes, en allant vers une gestion qui n'était pas celle à laquelle ils étaient habitués pour faire propre, ouais, n'est-ce pas?
Oui.
Propre, c'est tuer. Hein.
À 30 ans, en 1977, pour sortir de cette logique qui ne lui plaisait pas, Gilles Clément, à qui son père avait coupé l'accès à la maison familiale, a cherché son jardin, celui où il pourrait s'installer, où il pourrait justement expérimenter, son jardin cobaye. Il a visité 15 départements avant de revenir chez lui, dans la Creuse, où un terrain dont personne ne voulait était à vendre. Il l'a acheté et il a construit sa propre maison. C'est très facile, dit-il aujourd'hui, avant tout le monde savait le faire. Ses amis, avec lesquels il avait eu pour projet d'habiter en communauté, un projet qui n'a pas abouti, l'ont pris pour un fou. Maintenant, plus du tout.
C'est au Crozant qu'est né peut-être votre premier concept, le jardin en mouvement. C'est en travaillant ce jardin-là?
Oui, c'est ça. Bon, j'ai commencé par faire, sur la seule partie de terrain plat, un petit potager, toujours là. Ça a été le premier jardin, mais il est basique, c'est normal. On a besoin de ça. Et puis tout le reste, j'ai mis très longtemps à prendre des initiatives d'action sur le terrain, parce que j'ai d'abord essayé de comprendre comment les choses se passaient, y compris ce que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire quel était le prédateur éventuel de telle plante, à quoi servait celle-ci, cet insecte, qu'est-ce qu'il fait, l'oiseau, etc. Et c'est très intéressant d'ailleurs de rentrer dans le jardin par cette espèce de complexité de l'écosystème, parce qu'on a tout de suite la prise en conscience des interactions et on fait plus attention. Donc j'ai finalement...
Vous parliez un peu chinois aux gens, quand vous parliez de ça à des gens qui avaient fait les mêmes études que vous,
oui,
etc.,
oui.
Ça leur paraissait complètement incongru, ou c'était quand même dans une certaine...
C'était pas...
lignée ou pensée qui était déjà élaborée,
ouais. C'était compris par ceux qui avaient fait des études ou qui avaient une pensée vers la protection du vivant, ou en tout cas qui essayaient. Mais... Moi, on est toujours, enfin, on est dans la recherche en permanence. Donc, je ne pouvais pas donner non plus des recettes et des explications. Mais petit à petit, j'en ai trouvé. Quand je dis, bon, ben voilà, non, cette chenille-là, elle est rayée, noire, l'oiseau, il n'aime pas ça. Il sait que c'est un poison. C'est la chenille de la goutte de sang, qui est un papillon très joli, qui se met sur le tiria jacobé. Ça, elle s'appelle, qui se met sur le sénson de Jacob. Le sénson de Jacob, s'il n'y a pas la chenille, il se multiplie trop. Et il envahit. Ça devient une invasive, comme on dit. Sauf que c'est une indigène. Hein. Bon, là, il y a un grand discours à avoir avec les...
Espèces invasives.
Ouais, ça ne veut rien dire, ça. Enfin bon.
Ça rentre dans votre jardin planétaire, mais on y viendra.
Oui, mais c'est quelque chose, j'ai une vision là-dessus qui est complètement faussée, moi, qui me dérange énormément.
Vous dites, vous, de toute façon, que dans un jardin, on importe forcément des choses de l'extérieur.
Oui, toujours.
Et puis, plus le jardin grandit, plus on l'élabore, plus on va chercher loin.
Oui.
Donc nécessairement, l'idée d'espèce invasive n'a pas vraiment de sens.
Non, n'a pas vraiment de sens, mais le jardin est d'abord le lieu d'un brassage planétaire. C'est là que ça a commencé historiquement. Le premier jardin est un enclos, le jardin veut dire enclos. C'est là où on a mis des plantes qu'on allait autrefois ramasser, là où elles se trouvaient, dans le nomadisme. Mais tout à coup, quand on se fixe, et que les premiers humains qui se sont posés ont fait le premier jardin, ils ont importé. Et cette importation, elle vient de plus en plus loin, de fur et à mesure que la technologie de voyage est de plus en plus performante. Jusqu'à ce qu'on ait les pommes de terre qui arrivent de l'Amérique, quoi. On croit que c'est... Non, c'est pas de chez nous, hein, ça. Les pommes de tomates non plus. Bref, dans le jardin, il y a de tout, mais même sans nous, même sans notre action humaine, qui est une accélération du brassage planétaire, le brassage planétaire a toujours existé. Les oiseaux, le vent, tout ça, ça fait voyager, hein. Et depuis longtemps. Les chênes, ils sont arrivés il y a 10 000 ans parce que les geais ont perdu les glands.
Les geais ont perdu les glands qu'ils portaient dans leurs petites pattes.
Mais ils n'arrêtent pas.
Ils n'arrêtent pas de perdre les glands.
Mais, les endroits où vous... Le gland, c'est une graine pondéreuse, ça ne vole pas. Hein. Ça tombe sous le chêne. Quand vous voyez un gland qui est, on ne sait pas où, à combien de centaines de mètres d'un chêne, c'est forcément un animal qui l'a transporté. Et bien, c'est sans arrêt. Et l'arrivée des chênes chez nous depuis le sud de la péninsule ibérique ou de la péninsule italienne, c'était il y a 10 000 ans, c'est récent. C'est pour l'histoire de la planète, c'est rien. Donc qu'on arrête de nous dire que les plantes qui viennent d'arriver, il faut les jeter. En fait, elles s'acclimatent, sont heureuses d'être là. On devrait se contenter du fait qu'elles sont heureuses de vivre là, alors que d'autres ne le sont plus. Ils vont s'en aller. Changement climatique, ça accélère le mouvement. Enfin, bon.
Un jardin, ça reste quand même, on l'entend bien en vous écoutant, un endroit que l'homme aménage, ça reste un endroit où la nature est contrainte. C'est une contradiction pour vous avec ce que
non,
vous
non,
faites ?
Non, c'est un dialogue.
Un dialogue. D'ailleurs, bon. C'est même un... Quand je vous entends décrire le jardin en mouvement, vous parlez, je crois, de comment il est né avec une plante invasive, qu'on va mettre entre guillemets, qui est apparue sur un de vos chemins.
La grande berce. Oui.
Voilà, la grande berce qui est apparue sur un de vos chemins et qui vous a obligé à changer de chemin. Vous vous êtes dit, je ne vais pas l'enlever, je vais changer de chemin. Mm-hmm. Et en vous écoutant, je me disais, c'est un peu comme une danse. C'est un peu comme une danse.
Un peu, oui.
Donc vous parlez de dialogue, danse, c'est tout ça
fait
fonctionne.
Ça, hein. C'est tout à fait ça. Et pour éviter de la supprimer, j'ai changé, donc je l'ai préservée, mais je savais qu'elle allait disparaître après avoir fait les graines, puisque c'est une plante, on appelle ça une térophyte, c'est-à-dire une plante à cycle court, qui disparaît après que les graines ont été faites. C'est le cas des annuelles. Hein. Mais elle apparaîtra ailleurs, par le transport des graines. Donc forcément, on va danser, effectivement. Ça va faire un îlot, un peu un endroit où que je n'ai pas prévu. Bon, je dialogue avec ça. Ça a été le début de... C'était la raison pour laquelle j'ai appelé ce type de jardin un jardin en mouvement, car les formes changent. On est dans quelque chose de très dynamique. Ce n'est pas forcément le cas avec des plantes, les hémicryptophytes ou les phanérophytes, qui sont des plantes fixes. Les arbres sont là pour longtemps, les plantes vivaces sont souvent installées aussi pour longtemps, mais elles se développent aussi. Tout bouge.
Vous aimez, en tant qu'écrivain, les noms des plantes ? Les noms des arbres quand je trouve que vous les dites avec un certain bonheur.
Oui, mais les noms des plantes, sont c'est très beau. Hein. C'est généralement poétique. Oui, dans le vernaculaire, on est toujours dans la poésie. Après, dans le latin, on est dans une espèce de description, et c'est assez utile quand les nomenclateurs ont été des gens qui ont pris la précaution de faire apparaître un critère identitaire. Je ne sais pas, l'ilium album, ça veut dire le lys blanc. Si on commence à dire, comment ça s'appelle, Rhenutria, je ne sais plus comment on l'appelle aujourd'hui, la grande berce, la renouée du Japon, qui autrefois s'appelait polygonome. Ce polygonome, ça veut dire plusieurs genoux. C'est très intelligent comme description. Parce qu'effectivement, la tige a des espèces de nœuds comme des genoux, donc c'est polygonome, voilà.
C'est comme si les figues de Barbarie, c'était des petits pieds, quoi.
Voilà. et tout à coup, les nomenclateurs récents, à partir du cladisme qui est basé sur la génétique, changent complètement les noms et baptisent Rhenutria, en l'honneur de Monsieur Rhenoutre. Mais on s'en fout que lui, il ait nommé des trucs, bon d'accord, mais c'est pas descriptif du tout. C'est idiot, en fait. Vraiment idiot. On m'a fait le coup, hein, sur un papillon que j'ai découvert en...
On a voulu l'appeler le clémentonome.
C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Ils l'ont appelé, bon, il s'appelle Bunéopsis. Bon, ça, c'est le nom du groupe, Clémenti. Mais pourquoi ?
Vous avez dit non ?
Ben, j'aurais... Oui, ben...
On a le droit de refuser de donner son nom à un papillon.
Mais moi, c'était fait, c'était trop tard, mais j'aurais pu l'appeler Adamawansi, c'est-à-dire de la falaise de l'Adamawa, là où je l'ai découvert. Au moins, il y aurait eu une localisation.
On parle de communication et de dialogue entre l'homme et son environnement, entre l'homme et la nature. Et vous aussi, vous parlez de quelque chose dont on parle de plus en plus, qui est de la communication entre les plantes elles-mêmes, dans la nature elle-même. Vous avez été étonné, par exemple, par le succès phénoménal d'un livre comme La vie secrète des arbres.
Oui, oui, c'est très intéressant et utile qu'il y ait eu ce succès, même si c'est anthropomorphique et un peu exagérément, comme ça, un langage, une soupe. Bon, mais je trouve ça... Ça réveille les esprits. Qu'au moins, il y ait des gens qui ne sont pas habitués à comprendre tout ça, qui aient accès à cette connaissance, puisqu'elle n'est pas donnée à l'école. Elle ne l'est pas.
Non.
C'est tragique. Ben voilà, bon, donc ça a un rôle utile. Et moi, je suis très content que ça existe, même s'il faut un petit peu réviser le dialogue, enfin l'écriture, mais c'est pas grave.
Il y a quelque chose dont je vous ai entendu parler, que j'ai beaucoup aimé. Je peux aller beaucoup plus loin que le titre, « La timidité des arbres ».
La fissure de timidité.
La fissure de timidité.
Ça, c'était quelque chose que j'ai appris quand j'ai été invité à faire une mission Radeau des Cimes au Gabon par Francis Allais, donc voilà, qui aujourd'hui est en train d'imaginer une forêt primaire en Europe. Hein. Et il me dit, on se connaissait par lettres, on écrivait des lettres manuscrites, attention, c'était il y a longtemps, et par téléphone. Mais on ne s'était jamais vu. Et un jour, on a fini par se tutoyer. Il me dit, écoute, voilà, je pars au Gabon. C'était en 99. Donc, fin 99, là, à l'automne. Je t'invite, si tu veux, me donner une idée de mission que tu pourrais avoir, etc. J'ai tout arrêté. Et j'ai fait une proposition sur l'entomologie, assistance aux entomologistes. Et j'y suis allé. Et je ne sais plus pourquoi.
La fissure de timidité.
Ah voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des chercheurs à l'époque, il y avait plein de gens de tout pays du monde dans cette mission, qui étaient sur le travail sur l'architecture des arbres, qui est beaucoup un axe de vision de Francis Allais, et qui avaient établi une liste d'arbres qui sont dits timides du fait que leurs frondaisons ne s'interpénètrent jamais, ils se tiennent à distance, même quand ils sont proches les uns des autres. Ce sont toujours des arbres de la même espèce et qui ont le même âge. Voilà. Et là, ils ne se touchent pas.
Ouais.
Et un jour, je me retrouve dans un de mes voyages en Australie, et au nord de Cairns, on m'arrête sous une espèce de route bordée de Samanea Saman, moi je ne savais pas que c'était son nom, mais enfin, des arbres de la même espèce, justement, qui font une voûte magnifique au-dessus de la route, mais avec une lumière très fine, qui est justement ce qu'on appelle la fissure de timidité. Alors, j'envoie la photo à Francis, et je lui dis, qu'est-ce que ça peut être ? Et il me dit, c'est un Samanea Saman, qui est un arbre pas du tout australien, qui est d'Amérique latine, mais enfin qui avait été planté là. Voilà. Donc cette image est très belle et je la garde quand je veux parler de...
Oui, ça parle, forcément.
De la communication. Parce que là, c'est visuel, on voit. Parce qu'il y a plein de communications qui ne sont pas visuelles. Un courant électrique, une odeur, un gaz éthylène, des contacts comme ça qui sont chimiques. On n'a pas d'image. Là, on en a une.
Et vous parlez d'ailleurs beaucoup de vos voyages dans ce que ça vous a permis de conceptualiser justement à propos des jardins. C'est vraiment, là vous parlez du Gabon, c'est vraiment effectivement quelque chose qui vous permet de savoir où vous habitez.
Oui,
vous
permet... mon bilan carbone est mauvais, ça j'en ai bien la conscience, mais les voyages ont été pour moi extrêmement utiles. Je ne suis pas un touriste, hein. J'arrive pas. J'ai essayé, hein, mais ça, franchement, ça me dégoûte, ça va pas. En compte avec un guide qui vous dit voilà ce qu'il faut regarder, non. Moi, je veux voir ce qui m'attire, en fait. Donc, j'ai voyagé comme ça, quelquefois très lentement, quelquefois plus vite, mais bon, pas du tout dans les chemins de, justement, autorisés, indiqués ou obligés. Et ça m'a été, disons, le prétexte le plus extraordinaire étant celui de la recherche sur le monde vivant, les espèces, les végétaux. Je suis allé voir le Velvetia mirabilis dans le désert du Namib, c'était la raison pour laquelle je suis allé là, sinon j'y serais jamais allé.
Et alors ça n'a pas déçu vos espérances ?
Ah ben non.
C'était à la hauteur du voyage.
Ben oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et donc je dis que voilà, le voyage, il nous permet de savoir où on habite quand on revient. Sinon, on ne sait pas très bien où on habite. On pense que tout doit être comme ça. En plus, on a des règles parce qu'on a des habitudes et des rituels, alors qu'il y en a d'autres, ils sont extrêmement différents ailleurs, des autres visions du monde. Et là, ça nous met en situation de compréhension de ce qui se passe sur la planète et aussi surtout de là où on est.
On parlait tout à l'heure de l'architecture des arbres. Il y a tout un courant du biomimétisme qui est en train, pareil, d'émerger.
Oui.
Et je me suis demandé si ça pouvait vous agacer, parce que dans le biomimétisme, parfois, il y a aussi la volonté de rendre les choses plus performantes grâce au copiage de ce que vous appelez le génie naturel.
Oui.
Voilà.
C'est pas agaçant si on arrive à faire des choses intelligentes en s'inspirant de ce que la nature nous propose, la bande velcro, hein, ça vient de la bardane, c'est une plante. Hein,
on velcro. Connaît toutes ces celles où il y a des trucs qui restent collés, c'est très agaçant ça.
Il y a plein de graines justement qui voyagent comme ça, c'est génial, c'est juste génial. Bon, ben pourquoi pas, si on peut s'en servir de façon utile.
Et après, si ça devient à des fins financières ou capitaliste ou...
Ça, c'est ce qui détruit la planète. Vraiment. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet politique qui réponde à un rêve, à une idée pour survivre dans le futur. Aucun. Ça n'existe nulle part. C'est ça rapporte ou ça ne rapporte pas. C'est donc une règle. Ça rapporte, on le fait, même si ça détruit tout. Ça rapporte pas, on le fait pas. Enfin, c'est Bolsonaro, quoi.
Et justement, on en vient exactement là où je voulais qu'on en vienne, donc c'est parfait, au jardin comme résistance, ce que vous avez aussi théorisé. Et c'est vrai qu'on voit émerger, mais depuis les années 60, hein, un petit peu partout, des actes de résistance
oui.
via le jardinage. Je pense au guérilla gardening, par
oui,
exemple, qui
sûr,
a
oui.
commencé je pense, oui. en Californie oui, il y a oui. bien longtemps maintenant. Pourquoi est-ce que jardiner, c'est un acteur de résistance ? Pourquoi jardiner comme vous le faites, en tout cas vous ? Parce que j'imagine que quand on fait un jardin à la française où on détruit tout, sur son passage...
Jardiner, c'est exactement l'inverse de l'obéissance aveugle. On n'est pas dans le GPS, là. On n'est pas en train de suivre un chemin qu'on vous dit de suivre. Vous êtes tout le temps dans l'invention, tout le temps dans l'interprétation. Vous êtes dans cet équilibre qui est ce dialogue dont je parle, où on imagine quelque chose pour le futur, mais on intervient en tant que créateur, c'est-à-dire qu'on peut exprimer quelque chose qui est du domaine de la création par l'art. On est obligatoirement un artiste, même si on n'a pas besoin de le dire, mais on l'est. On est quelqu'un qui, on sait pourquoi on fait ça. Donc on est dans une espèce d'équilibre avec soi-même et sa pensée. Et le rapport entre l'action et le projet, quoi, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc on n'est pas du tout dans l'obéissance à l'ordre établi qui est celui de vous consommer. Vous devez consommer. Vous devez faire ci, vous devez faire ça, qu'on nous met partout, avec toute la publicité, avec tout. Moi, j'ai été très touché récemment par une thèse de Mathilde Rue, à Toulouse. C'est une étudiante hein, qui fait une thèse qui vient de l'achever, là, sur l'agroforesterie. Et elle fait tout un travail, il y a une dizaine de c'est des couples ou d'agroforestiers qu'elle est allée interviewer. Mais quand on les entend parler, là, on comprend qu'est-ce que c'est que le rapport de l'homme à l'espace, au temps, au projet de vie, à l'harmonie, le paysage. Ils en prennent la dimension. C'est magnifique. Ils sont heureux. Même s'ils ne sont pas du tout riches. Hein. C'est pas le problème. Bon, ça donne vraiment des réponses. Et je pense que tous ceux qui s'installent aujourd'hui sur des terrains modestes parfois, mais avec des initiatives de ce genre-là, c'est pas forcément de l'agroforesterie, ça peut être beaucoup plus modeste encore, ou plus vaste, ça n'a pas d'importance, mais qui sont décidés avec une gestion qui est une gestion qui est un travail avec l'énergie du vivant sans le détruire, ben,
ils sont heureux.
Voilà.
En tout cas, ils s'en approchent.
Ça se voit, hein, dans les textes, dans leurs photos, dans les films, quand on les a. Ça se voit.
Gilles Clément le dit, outre ses voyages et son jardin, sa source principale d'enseignement, là où il apprend le plus, c'est auprès de ses étudiants. Parce qu'il lui pose toujours des questions incongrues, impossibles, saugrenues, qui vous obligent à trouver le mot juste. Et c'est comme ça que Gilles Clément s'est retrouvé à écrire, pour ses étudiants. Et c'est en écrivant qu'il a théorisé ses jardins, ainsi que le tiers paysage. Alors si j'ai tout bien suivi, le tiers paysage, en fait, c'est la nature. La nature non touchée par l'homme, ou alors celle qui a repris ses droits. Au début, je comprenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner un nom à la nature, de la conceptualiser ? Mais les zones où la nature s'exprime librement sont devenues si rares aujourd'hui, si précieuses, dit Gilles Clément, qu'il faut le théoriser.
Vous avez réussi à vendre à une maison d'édition votre roman d'anticipation, finalement ?
Oui.
Ouais, ça y est, c'est bon ?
Celui qui s'appelle Le Grand Bal, mm-hmm. Oui, il a été édité par Actes Sud.
Vous avez mis du temps à le...
Oui, j'ai mis du temps et en fait, pas tellement, non. Je craignais, enfin, j'ai pendant toute une année, toutes les maisons d'édition auxquelles je proposais, qui étaient des maisons qui s'attendent à ce que je fasse un travail sur le métier que je fais, j'ai dit, mais non, on s'attend pas à ça, m'ont tous dit, et ils n'en ont pas voulu, sauf Actes Sud.
Et je vous pose la question parce que j'ai cru comprendre que ce qui vous avait amené à écrire un roman, justement, et pas un texte qui serait d'une autre nature, c'est que vous aviez envie de mettre en scène la fragilité humaine, en tout cas l'humain dans son rapport à la nature.
Oui.
Et du coup, je me suis demandé quel était votre rapport, c'est très très large, à l'humanité, mais j'imagine une certaine tendresse, puisque quand on voit les... fragilité des gens, on a forcément un peu de tendresse pour eux.
C'est exactement ça. C'est... Le chat revient. C'est pour moi, c'était pas un être humain. C'est quelqu'un avec qui on a un rapport, pas forcément fusionnel, mais d'échange. Et pas de rejet, quoi. C'est exceptionnel qu'on se trouve... Il faut vraiment être agressé pour rejeter. Mm. Sinon, non. Et c'est pour ça que j'ai jamais compris, hein, quand il y avait des prises de position. Les prises de position qui sont d'ordre culturel, moraliste, religieuse, je les comprends pas. Je ne les comprends
ça
pas.
Ça fait partie des choses que vous ne comprenez pas.
Non, je ne les comprends pas.
Vous ne pouvez pas intégrer.
Non, je ne peux pas intégrer. J'y arrive pas. J'arrive pas, j'ai beaucoup de mal.
Et pour revenir sur l'humain, j'ai l'impression que dans votre vie, l'amitié tient aussi une part très importante. J'ai l'impression en filigrane de vos relations avec, très fortes avec des gens depuis 50 ans, 60 ans.
Oui, oui. Oui, oui, c'est une sorte de fidélité quand on est des amis. Mais c'est, là, il n'y a pas de... C'est très agréable, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de tension qui viendrait de la jalousie, l'amour et des difficultés qui viennent des effets passionnels. On est dans l'amitié et on se rend service et on rigole.
Mais on rigole surtout.
Oui, surtout.
Et puis, effectivement, on peut être soi-même, j'imagine.
Bien sûr. Bon.
C'est quelque chose sur lequel je voulais venir parce que j'ai eu l'impression de le voir un peu apparaître un peu partout en lisant des choses sur votre vie. Et oui. Toujours des histoires d'amitié qui ressortaient et là. Voilà.
Oui, oui, mais c'est très juste ce que vous dites, c'est très important.
Je vous ai dit au tout début de cet entretien, j'ai parlé des pistes que vous aviez suivies toute votre vie, l'émerveillement, non, ce qu'on disait, et puis le faire. Et le faire, c'est quelque chose... qui revient énormément ces dernières années.
C'est extrêmement important. J'ai l'impression, avec la crise que nous vivons, que ceux qui ne vont pas souffrir sont ceux qui travaillent avec leurs mains. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se passer d'eux. C'est juste... Et c'est bizarre, parce que c'est parce qu'évidemment, ceux qui sont
mis en valeur ou valorisés.
Ils ne sont pas ni mis en valeur ni payés. Voilà, moi, j'accueille ici un jeune qui travaille en mi-temps dans une entreprise et dans à l'école du Breuil, à Paris, pour être à la fois jardinier et paysagiste peut-être, mais enfin, C'est quelqu'un qui est roumain, qui a toujours vécu dans le monde paysan, jusqu'à ce qu'il arrive ici, parce qu'il n'y a plus d'autre solution pour vivre. Et il fait tout, il devient, lui, le prof de ses étudiants de sa propre classe. Parce que lui, il sait. Mais on a perdu ça. Et il est précieux. Il est extrêmement apprécié.
Et vous parlez de crise, et il y a quelque chose que vous dites qui a résonné fort pour moi, et qui comprend une certaine dose de tristesse. Vous parlez du silence du mois d'août.
Alors, oui, ben je me suis trompé.
Enfin, ah bah chouette, vous me faites plaisir, parce que
non,
une partie de votre travail consiste à regarder,
oui,
à constater.
Non, mais c'est à moi que je déteste. Parce que les couleurs sont toutes pareilles, les verts se rejoignent tous, il n'y a plus les nuances, il n'y a pas encore celle de l'automne, il n'y a plus celle du printemps, il fait trop chaud, et on n'entend plus les oiseaux. Bon, et c'est ce silence pesant qui, moi, ne me plaît pas. On entend un peu quelques insectes, mais bon. Et récemment, j'ai vu pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois que je les vois, les chanteurs d'oiseaux. Ce sont deux garçons incroyables, hein, qui se connaissent depuis qu'ils sont petits, dans la baie de la Somme, où ils écoutaient, ils allaient dans les caches de chasseurs, et ils imitent les oiseaux. Mais on les entend. C'est magnifique. Et ils font des représentations de ça. Alors donc, je les avais vus une fois à Château-Gontier, l'autre fois c'était à Grenoble. Et là, je vais les trouver et je leur dis, mais il faudrait supprimer le mois d'août, hein. Je me dis, mais pas du tout. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'époque où les oiseaux refont leurs plumes. Moi, je ne savais pas. Je suis nul. On ne nous apprend pas ça. Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça? On écouterait, si je puis dire, en silence le mois d'août, autrement.
Oui, c'est un temps de renaissance.
C'est, ben voilà, c'est très,
presque
très
un printemps
important
de l'oiseau.
Merci, les chanteurs d'oiseaux, quoi. Mais moi, je trouve ça nul qu'on soit ignorant à ce point.
Bah, surtout pour, sans vouloir vous offenser, pour vous qui avez passé,
mais oui, non, mais
60
bien
ans
sûr
à apprendre.
Mais bien sûr, mais ils en apprennent tout le temps.
Mais bon, ça n'empêche pas le fait que vous observez dans votre jardin une certaine perte de la biodiversité,
oui, bien
et
sûr,
des espèces disparaître.
Bien sûr, bien sûr.
Mesure.
Bien sûr, il y a une diminution du nombre d'oiseaux, de d'insectes, énormément d'insectes de nuit qui ont disparu, vraiment. Là, pour le coup, les chauves-souris, elles ont à se plaindre, hein. Non, vous savez bien, quand vous prenez la voiture, vous n'avez plus besoin de mettre les essuie-glaces avec le... Hein, il n'y a plus rien sur le pare-brise. Hein.
Et ça, quand on a fait votre vie comme vous avez fabriqué la vôtre, ce n'est pas un peu désespérant de voir ces choses disparaître, ce vivant partir? Ou vous croyez justement au changement?
Dans l'histoire des... Oh ben, il n'y a pas de problème pour l'histoire de la planète. Hein. C'est nous qui sommes...
C'est nous qui sommes en danger.
Oui, oui. Le reste...
Mais vous aimeriez quand même bien qu'on se sauve?
Ben, j'aimerais beaucoup qu'on se sauve, mais qu'on arrête de penser qu'on est les maîtres du monde, qu'on peut se reproduire indéfiniment, on est dans un espace fini, qu'on arrête de faire des bêtises en détruisant le reste du vivant, ce qui n'est... Enfin, ça va pas, quoi.
On est dans un jardin.
Et toutes les enfin, quand je vois que... Non, mais... On relance les néonicotinoïdes, mais comment on a le culot de faire ça? En disant, soi-disant qu'on respecte les accords de Paris, non mais ça va quoi, on nous prend pour des cons, c'est insupportable, on est dirigé par des gens qui n'ont aucune espèce de respect du vivant, enfin on le voit bien, de toute façon il faut relancer l'économie, hein, les oiseaux, j'allais dire, non, les avions, les voitures et tout, on s'en fout, c'est l'économie de la bagnole, les transports en commun de train, ils ont été supprimés,
vous dites, sur
très peu de trains.
Oui, ça revient. Ils sont en train de faire revenir les trains de nuit, ce qui, moi, était un de mes combats dans ma vie.
Ça, c'est bien.
Ouais. Vous dites que si on mettait un ministre de l'Environnement dans l'Environnement, il ne passerait pas la nuit. Je ne sais pas, c'est une phrase que vous avez dit comme ça.
Bah, si vous le mettez dans l'Environnement, il meurt en 3 jours, hein, parce qu'il ne sait pas les plantes qu'on peut manger et celles qui sont poison.
J'ai 2 dernières questions pour vous, Gilles Clément, qui sont des questions qu'on pose à tout le monde. La première, c'est, est-ce que c'était mieux avant?
Ça, je peux pas dire non, je peux pas dire.
Pas intéressant comme.
Non, parce que je ne suis pas du tout dans la nostalgie, moi. Donc, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui était. Parce qu'on a fait tellement de conneries avant, Les 30 glorieuses, c'est les 30 désastreuses, pour moi. La guerre des religions, je ne suis pas terrible, voilà quoi.
D'ailleurs, vous avez un espoir dans cette jeunesse qui commence un petit peu à lever la tête.
Oui, oui. Non, mais vraiment.
Et à dire stop.
Là, oui, oui, vraiment, là, je les appelle maintenant, ça c'est l'expression que je la tire de Baptiste Morisot, mais ce sont les oursons métis.
J'aime beaucoup. Je ne connaissais pas. Nous sommes. Enfin,
le réchauffement climatique, vous avez les grizzlies qui se rapprochent des polaires.
Ça a créé les gros lars, qui est un nom vraiment moins bien que les oursons métis.
C'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, on ne savait pas qu'ils étaient fertiles, parce que par distanciation, il y a ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique, ils auraient pu être stériles. Ben non, finalement, ils sont encore fertiles, ils font des bébés, qui naissent dans un contexte qui est le leur. Les parents, eux, ils sont traumatisés. Ils ont connu ce choc du changement. Et alors, ils sont désemparés. Mais pas les petits.
Pas les
ce sont eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Bon ben voilà, on est avec des oursons métis aujourd'hui. J'ai fait un texte pour un appel à projet pour les jeunes, pour des projets à réaliser des jardins. Et dans le demi-cercle complémentaire à Arques-Senan, qui est un lieu où il y a des expositions de jardins, en descendant à eux, en disant « Vous êtes des oursons métis. C'est vous qui allez nous apprendre comment il faut faire. » pour répondre à ces questions du changement climatique, de l'art de vivre, de la consommation, de l'économie, de la non-dépense, et ainsi de suite.
Vous disiez que vous n'êtes pas dans la nostalgie. Pour moi, c'est un rapport avec le rapport au temps qu'on entretient aussi en jardinant, en voyant la nature. Vous disiez qu'on se parlait, que je n'ai plus votre expression, mais quand je vous disais tout à l'heure, on sème le futur aussi quand on
ben oui, quand on...
Un espace mental d'espérance,
voilà.
C'est ça. Donc on est quand même dans la projection.
Toujours.
Et moi, j'ai remarqué que quand les gens, c'est en vieillissant, enfin, je parle pour moi, mais je pense que je suis vraiment loin d'être la seule, qu'on comprend.
Je suis sûr que vous n'êtes pas très vieille, hein, j'ai pas l'impression.
Oui, en vieillissant, mais en grandissant, d'accord, qu'on comprend l'intérêt du jardin. Enfin, je veux dire, de voir les plantes pousser, etc., avoir un certain âge, sauf pour vous, il y a plein de gens que ça n'intéresse pas, et puis tout d'un coup, on voit sa mère vous poster les 18 photos de ses géraniums qui ont poussé dans le jardin. Enfin, je pense qu'on a tous expérimenté ça. Et je pense que c'est un certain rapport au temps, à la vie, où tout d'un coup, la mort devient moins dramatique, puisqu'on voit la vie reprendre en permanence quand on regarde un jardin. D'où ma dernière question, qui n'en était pas une jusqu'à maintenant, qui est-ce que vous avez peur de la mort, justement?
Ah, la mort, non, pas du tout. Non, moi, j'ai peur de la souffrance. La mort, non. On meurt, puis voilà, quoi. Ça, c'est... On en fait tout un tas, on fait des cimetières, c'est très compliqué.
Vous êtes contre les cimetières, vous êtes anti-cimetières?
Ben, moi, je serais plutôt pour... j'aime bien les histoires des cendres et qu'on me jette dans la mer, comme à Bali ou dans d'autres cultures. Mais faire des architectures sinistres avec des je sais pas quoi dessous, des trucs dessus encore pire... Floraison, non, ça m'intéresse pas du tout.
Et vous avez prévu qu'on vous jette où alors? Dans votre jardin?
Oui, n'importe.
N'importe,
c'est pas un problème ça.
Okay.
Le jardin planétaire, il est pas très grand, hein, c'est la planète. Qu'on soit là ou là-bas, c'est pareil.
Merci beaucoup, Gilles Clément.
Merci à vous.
Un grand merci à Gilles Clément pour son temps, son café et son accueil. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset, mixage Laurie Galligani, réalisation, coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche ou alors sur Instagram @vieillebranchepodcast.
À bientôt dans Vieille Branche.